des phénomènes imprévus ou inexpliqués, et c'est la porte d'entrée obligée dans la connaissance, dans la réflexion, dans la philosophie. S'étonner ici ne signifie pas demeurer stupéfait, paralysé devant l'inattendu, l'incompréhensible, c'est au contraire être ébranlé, mis en mouvement. La langue française d'autrefois donnait à l'étonnement un sens très voisin de son étymologie, frappé d'un coup de tonnerre. Mais l'étonnement dont parlent les philosophes grecs n'est pas ce qui étourdit ou ce qui foudroie, mais au contraire ce qui éveille. S'étonner, pour le philosophe, ce n'est donc pas être ébloui par l'extraordinaire, aveuglé. C'est plus simplement et plus activement être frappé par les choses les plus banales, les plus ordinaires, que l'on accepte de regarder d'un œil nouveau. Ce n'est donc pas tant la nouveauté des choses offertes au regard qui provoque l'étonnement, que la nouveauté du regard porté sur les choses. S'étonner se dit en grec « tomazein ». Le « toma », c'est le merveilleux, ce qui provoque la stupeur devant le surnaturel et renvoie au besoin primitif d'attribuer aux divinités les phénomènes inexplicables. Avec les philosophes présocratiques, ceux de l'école de Milet, l'étrangeté des phénomènes, comme ceux qui se produisent dans le ciel avec la lune, les étoiles, le soleil, n'impose plus le sentiment du fascinant, du surnaturel, du féerique, du mythique, de l'inquiétant. Cette étrangeté se propose comme une ignorance à résorber, comme un problème à résoudre. De vénération muette, l'étonnement s'est fait interrogation, questionnement. Le toma, c'est-à-dire donc le merveilleux, l'étonnement, a été réintégré dans l'ordinaire de la nature. Et le savoir philosophique, comme le savoir scientifique, procède de l'étonnement. Apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance, écrit Aristote. Ainsi donc, ce fut pour échapper à leur propre ignorance que les premiers philosophes s'adonnèrent à la philosophie. L'étonnement, c'est donc l'émerveillement qui ouvre à la curiosité. Quoi qu'on pense de sa philosophie, Jean-Paul Sartre est assurément l'un des penseurs qui aura marqué le XXe siècle de l'empreinte d'une pensée puissamment spéculative, comme en témoigne par exemple le gros pavé, l'être et le néant. Mais ce qu'il y a d'admirable chez ce philosophe qui sait être très abstrait, c'est sa capacité à plonger dans l'expérience la plus ordinaire pour y puiser l'élan de sa réflexion. Avec l'été et le grouillement humain autour des terrasses de café, il est facile de refaire, à notre tour, une célèbre observation philosophique de Jean-Paul Sartre, celle d'un garçon de café. « Considérons ce garçon de café », écrit Jean-Paul Sartre dans « L'être et le néant ». Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement, sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible dont ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu qu'il rétablit d'un mouvement perpétuellement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Voilà comment s'exprime plaisamment Jean-Paul Sartre. Ce garçon de café qui a un mouvement un peu trop précis, un peu trop rapide, à l'évidence joue. De cette description, Sartre va tirer plusieurs conclusions philosophiques. D'abord, nul n'est, dans son être profond, un garçon de café. Garçon de café n'est pas une essence, c'est un jeu, un rôle, une fonction, un personnage. Ce n'est donc pas la personne elle-même. Le garçon de café joue à être garçon de café. Il n'est pas garçon de café. S'il l'était, il serait pétrifié dans une nature, il serait une chose et non une conscience qui toujours improvise. Ce que Sartre veut nous dire ici, c'est que nous sommes tous des garçons de café. Pour faire un pas vers l'authenticité, nous devons d'abord reconnaître que nous jouons, nous aussi, à être ce que nous ne sommes pas. Le garçon de café sait qu'il n'est pas ce qu'il joue à être. Il n'est garçon de café que pour répondre au rôle qu'autrui veut qu'il joue. Mais en même temps, il se pique au jeu. Il s'enferme dans son jeu. Il automatise